RCF.
La famille dominicaine a fêté récemment son 800e anniversaire. Elle compte aujourd'hui dans le monde 6000 frères, 2000 moniales, 30 000 sœurs apostoliques, mais aussi 200 000 laïcs qui vivent de la spiritualité de Saint-Dominique. Depuis 2010, c'est un Français, Bruno Cadoret, qui est maître de l'ordre. Et avant de clôturer son mandat, le 86e successeur de Saint-Dominique se confie dans un livre « Avec lui, écouter l'envers du monde » paru aux éditions du Cerf. Né en Bourgogne, de père martiniquais, Bruno Cadoret est devenu médecin tout en rentrant dans l'ordre par désir de suivre une famille donnée au monde avec le lien de la fraternité.
C'est une famille de la prédication, c'est une famille de la parole, c'est une famille de l'évangélisation. Saint-Dominique est quelqu'un qui a, au moment où il a commencé à prêcher en Lauragais dans le sud de la France, il a été saisi par la conviction que la manière dont Jésus voulait faire entendre la parole de son Père était la seule manière possible. Que pour faire cela, il fallait s'approcher des gens et les rencontrer, comme Jésus lui-même le faisait, et prendre du temps avec eux, et converser avec eux, et dès que l'occasion se présentait, parler de celui qui est cette parole.
Être avec les gens.
Être avec les gens. Et c'est plus qu'être avec eux, c'est être avec eux en espérant pouvoir être avec eux comme amis. Comme frère. Je suis très frappé que on dit de Saint-Dominique que quand il a commencé à prêcher dans le sud de la France, il était sous-prieur d'un cloître de chanoines à Osma, en Espagne. Et quand il a commencé à prêcher, il a dit « Maintenant, je voudrais que vous m'appeliez frère Dominique. » Comme si le fait de proposer la parole comme un lieu pour demeurer pouvait se faire à la mesure où on se présentait proposant d'être fraternel.
Donc la fraternité et prédication vont complètement ensemble. Ça n'est pas dissociable.
Non, c'est comme le moyen de la prédication. C'est comme une attestation de la prédication. La parole se fait fraternelle. La parole de Dieu se fait fraternelle. Jésus fait ça. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père. Être frère, c'est pas l'idée de la fraternité, c'est être frère, c'est-à-dire engager son humanité dans une relation de distance, parce que le frère est seulement le frère, de découverte, parce que c'est vous qui allez me faire découvrir comment je vais être votre frère, je peux pas le décider avant qu'on ait commencé, de grande proximité et de grande équivalence, parce qu'on ne peut pas être plus frère qu'un autre frère, et dans une proximité et une amitié qui va faire que votre vie humaine va se laisser marquer par ce qui arrive à ses frères. Votre vie humaine va se laisser toucher, émouvoir, blesser, souffrir par ce qui arrive dans la vie de ses frères.
Alors, vos frères dominicains, mais aussi vos frères humains?
Des frères humains, des frères, des humains. Et je pense que c'est une... Ce mot, cette réalité de fraternelle est une réalité très importante pour l'Église catholique, pour l'Église. Elle est dans cette position où, pour proposer la fulgurance de la présence de la parole... Elle se propose de devenir sœur, frère de celles et ceux qu'elle va rencontrer.
Mais alors, au cœur de cette fraternité, quel est le rôle du maître de l'ordre?
Veiller à ce que chacun puisse développer sa propre capacité à être frère. Et quand vous êtes dans un ordre religieux, vous découvrez que chacun a une capacité propre. Personne ne va être frère comme les autres. si on va au-delà du formalisme de la vie d'un couvent, de la vie d'un ordre religieux, chacun va manifester sa fraternité d'une manière particulière avec ceux avec qui il vit dans sa communauté, mais aussi à l'extérieur. Et le maître de l'ordre a au fond la charge, mais qui est aussi un immense cadeau, de pouvoir recueillir toute cette diversité des manières d'être frère, des manières de faire la parole de Dieu proche de celles et ceux qui rencontrent, veiller à ce que chacun soit au plus près et au plus juste de cette capacité-là. Et veiller à ce que, dans cette diversité, chacun soit ouvert pour découvrir que la diversité est possible parce qu'il y a une communion qui précède tout ça. Dans une grande diversité de cultures, dans une grande diversité de générations, de positionnements ecclésiaux, de types d'intérêts intellectuels, d'intérêts pour le monde, dans toute cette diversité, veiller à ce que jamais aucun ne se sente non reconnu, peu important, quantité sinon négligeable, en tout cas oubliable.
Bruno Cadoré, dans votre livre, vous évoquez votre mission au service de l'ordre des frères prêcheurs. Et puis, vous parlez de votre expérience personnelle. Vous êtes né au Creusot, d'une mère bourguignonne et d'un père martiniquais.
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette double racine ?
Oui, c'est une. On découvre ça avec l'âge. Vous savez, quand on vieillit, on s'interroge peut-être davantage sur les origines. Pour moi, il m'apparaît vraiment évident que cette double appartenance, en quelque sorte, m'est essentielle. Elle m'est essentielle parce que elle a fiché en moi la conviction que, au fond, personne n'appartient à vraiment un seul lieu et que personne ne peut se fixer seulement d'une manière. Il y a de l'entre-deux, de l'entre-deux, de l'entre-monde. Il y a du croisement, il y a du métissage.
C'est important à une période où on aurait tendance parfois à radicaliser le sol, l'appartenance.
Oui, je sais bien. On a tendance à le radicaliser théoriquement, mais j'ai le sentiment que l'expérience humaine de tout un chacun est plus belle que ça. Elle est plus complexe. On appartient à plusieurs cultures, on se réfère à plusieurs cultures, on se réfère à plusieurs temps. Alors le fait d'être comme ça, je suis né en Bourgogne et je n'ai pas connu le pays de mon père avant l'âge de 25 ans, 26 ans même. Donc ça a été pendant toutes ces années une sorte d'imaginaire. Et Dieu sait qu'on peut imaginer beaucoup quand on est enfant, quand on est jeune. Mais avec cet imaginaire, savoir que vous êtes ici, mais ici ne vous résume pas.
Vous pouvez aussi être là-bas.
Oui. Et puis, vous êtes là-bas, mais vous n'êtes pas là-bas. Et quand vous y êtes, vous n'êtes pas de là-bas. Vous en avez rêvé, vous l'avez imaginé.
Quand vous êtes retourné en Martinique.
Vous êtes projeté, mais vous n'êtes pas de là. Et le fait de découvrir que, au fond, c'est peut-être plus important de savoir que vous êtes précisément celui-là même qui voit qu'il ne peut pas se réduire à un lieu, ceci est plus important que de savoir d'où vous venez.
On ne peut pas réduire quelqu'un
à
son origine.
À son origine, à son lieu, à son appartenance. On ne peut pas réduire quelqu'un, en fait.
Comment Dieu s'est-il manifesté à vous, jeune ? Vous aviez un terreau chrétien, là, qui a permis cela
Oui, ma famille est catholique, donc je suis né dans cette culture-là et dans cette pratique de l'Église.
C'était une famille pratiquante ?
Oui, plus ou moins, selon les membres. Ma famille est comme toutes les familles catholiques, en tout cas celles que je connais. C'est-à-dire, il y a pratiquantes et il y a des pratiquants et des non-pratiquants. Mais la référence à l'Église était évidente, était prégnante dans ces premières années.
Et ça vous donnait envie de vous y impliquer ?
Ça a fait naître en moi la conviction que Dieu était, et cette conviction que j'étais animé d'un désir d'avoir une relation avec lui, de comprendre qui il était, ce qu'il disait, d'être en familiarité avec lui. J'ai le sentiment très très tôt une sorte de sentiment de proximité.
Avec l'idée d'une relation, que si on s'adressait à quelqu'un,
oui,
c'était pas une déité.
Non, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Et puis, au début du livre, j'évoque ça parce que ça m'a beaucoup frappé. Il y a des paroles de témoins de l'Évangile qui vous marquent. Et j'en évoque quelques-unes, des hommes, des femmes, un prêtre qui avait une manière de parler de Jésus qui faisait que ce Jésus, on avait envie d'être son ami. Tout simplement, il avait une manière de regarder les autres, de regarder les pauvres, de regarder le monde qui vous plaisait au point que vous aviez envie d'être son ami.
Dans le livre, Bruno Cadoré, vous racontez aussi que, enfant, vous allez être concerné, touché par la question du pourquoi. Pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Notamment à travers le décès accidentel de collégiens ou de lycéens, peut-être, qui étaient avec vous.
Oui, de deux amis, oui. C'est toujours difficile pour des jeunes adolescents de voir la mort
faire
éruption comme ça dans une vie qui n'est pas faite pour ça. Et justement, à ces deux occasions, le prêtre dont je parlais, en tout cas dans mon souvenir, parce qu'on reconstruit toujours ces souvenirs, mais dans mon souvenir, ce prêtre n'a pas essayé de mettre des mots qui expliquaient. Il a été là, il a écouté nos silences, il a probablement, là je ne pourrais pas le dire, mais il a probablement lu la parole de Dieu, mais il a surtout été là, manifestant que quand une épreuve fait irruption, ce qui est probablement le plus important, c'est d'aider l'autre à ne pas devoir tenir tout seul. Et donc il a tenu avec nous.
Sans vouloir colmater avec des paroles toutes faites.
Sans expliquer, sans dire quelque chose sur maintenant, qu'est-ce que c'était mieux. Non, en étant troublé comme on pouvait l'être, en étant triste et malheureux comme on pouvait l'être. Au fond, il a fait ce que Jésus fait devant le tombeau de Lazare. Il a pleuré avec nous. Et c'est ce qu'on peut faire de mieux, de pleurer en tenant. En tenant que lui, Jésus, est là, se tient avec nous. Et que ça donne la force de passer l'épreuve, ça ne donne pas le goût de s'enfuir de cela, ça donne la force de passer.
Enfant, je veux être médecin.
Oui,
c'est vous qui dites ça,
oui.
Bruno Cadoré. Vous avez su très jeune ?
Ah, très vite, oui.
Parce que votre père était médecin ?
Probablement, c'est une lecture qu'on peut faire. Probablement, parce que je suis d'une famille où il y avait des médecins. Donc, parce que j'ai beaucoup admiré la façon dont pour mon père et pour ma mère avec lui, c'était important de prendre soin des gens. J'ai beaucoup admiré ça. Et ça m'a marqué. C'est, oui, ça m'a touché, ça m'a ému. Et oui, très vite, j'ai imaginé que je pouvais devenir médecin.
Vous vous êtes engagé dans
et j'ai
des
adoré
études,
faire ça.
Dans
oui.
les études de médecine.
Oui, j'ai adoré ces études-là et j'ai adoré soigner, apprendre à soigner.
Notamment avec les enfants, puisque vous faites votre internat à Strasbourg, en pédiatrie.
Oui, je souhaitais devenir pédiatre, donc étant interne, je m'étais lancé dans cette voie-là.
Et vous dites que ça vous a énormément touché également.
Oui, parce que pardonnez-moi, c'est sans doute très banal, mais les malades vous apprennent à devenir médecin. Et vous savez pas bien comment, mais et alors les petits malades, les enfants malades vous apprennent peut-être encore plus parce que on peut pas raconter beaucoup de fariboles à des enfants malades. C'est un enfant débusque les tentatives de fuite des adultes. Et il trouve toujours comment faire pour vous ramener à plus de vérité. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais être pédiatre, oui.
Alors que vous vous épanouissez dans votre vocation de médecin, qu'est-ce qui fait que vous allez aller frapper à la porte des Dominicains, Bruno Cadoré ?
Ben, d'abord, quel que soit le métier que vous faites, ou le métier que vous vous préparez à faire, il reste que vous avez vos propres questions existentielles. Et donc cette question de la proximité de Dieu, de la familiarité de Dieu, de qu'est-ce que tu as à faire avec lui, qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus que lui, continuer à m'habiter, que je le sache ou que je ne le sache pas. Mais ça, c'était important. J'aimais la prière, j'aimais la contemplation. J'étais pas particulièrement engagé dans l'église, dans un mouvement d'aumônerie, de choses comme ça. Mais
il faisait partie de votre vie.
C'était dans ma vie. Et puis, je n'ai pas non plus cherché les dominicains particulièrement. Il se trouve que je les ai rencontrés. Un jour, je suis entré dans une église dominicaine. C'était une heure de prière de vêpres. Et là, au risque de paraître trop simplet. Mais bon, je me suis senti chez moi. Je me suis senti quelque
comme,
part...
Comme à la maison.
Quelque part comme si c'était chez moi. Et donc, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Alors, c'est comme toutes les rencontres. Vous êtes pris, saisi par la rencontre. Et puis ensuite, vous vous en écartez un peu parce que vous comprenez pas bien. Puis vous y revenez. Puis vous repartez. Et puis voilà, vous tombez amoureux d'une certaine façon.
Ben justement, vous aviez songé à créer une famille, à fonder une famille ou pas ? Parce que c'est un choix quand même de renoncement à toute cette partie-là.
Comme tout adolescent, j'ai sans doute pensé à fonder une famille. C'est plus que sans doute. J'ai pensé avec... Oui. Mais le renoncement, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Vous voyez, souvent on dit ça, il entre dans la vie religieuse, alors il renonce, quel courage, il renonce. Je dirais pas du tout. C'est après que vous découvrez que vous avez renoncé.
C'est parce que vous étiez dans l'élan amoureux alors.
Ben oui, parce que vous pouvez pas tout faire en même temps. Si vous rencontrez un lieu où vous vous sentez bien chez vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de vous qui est ajusté, alors vous vous y lancez. Alors après ça, vous découvrez ce que vous avez fait. Par exemple, je crois ne m'être pas vraiment posé la question avant d'entrer dans l'ordre sur le fait que j'allais pas être médecin, que je n'allais pas achever mon internat, que je n'allais pas réaliser la carrière dont j'avais rêvé pendant des années quand même. Ça ne faisait pas partie de l'équation. Après, vous découvrez que, ah ben tiens, ce que tu pensais avoir quitté, en fait, ça te revient. Ce que tu pensais pouvoir laisser facilement, mais tu en as la nostalgie. Et c'est là que ça devient vrai.
C'est dans l'après-coup et c'est là que le choix véritable, durable, se pose.
C'est là que c'est un choix, mais c'est le choix de vous. C'est de vous qu'il est question. Vous voyez, c'est pas simplement bon, je me trouve devant une carrière médicale ou entrer dans la vie religieuse, alors je vais abandonner la carrière médicale pour pouvoir entrer dans la vie religieuse. Non, c'est je rencontre la possibilité de la vie religieuse, la possibilité de vivre avec celui dont depuis des années tu te dis qu'il fait partie de ta vie et tu t'y trouves chez toi. Puis tu y vas. Puis après, ah oui, mais tu te rappelles que tu voulais être médecin. Ah tiens, oui, c'est vrai.
Oui, mais vous allez rester médecin puisque vous allez prononcer vos vœux et puis être médecin.
Oui, alors je,
à l'intérieur de l'ordre.
Je vais refaire de la médecine après le noviciat parce que mon supérieur va m'envoyer en Haïti pendant 2 ans. Et là, je suis dans un pays, dans les montagnes, dans un pays où il y a besoin de soins de première nécessité. Et du coup, je retrouve le soin.
Mais vous avez l'air de dire que finalement, ce n'est pas forcément la médecine qui vous a touché le plus là, dans cette expérience, mais c'est la fraternité, justement, la pauvreté de ces personnes. Une expérience très, très forte.
En Haïti, ce qui m'a touché, oui, ça n'est pas d'avoir retrouvé la médecine. Pour le coup, c'est d'avoir découvert l'Église. D'avoir découvert une Église que je n'imaginais pas, que je ne connaissais pas. Une Église de petite communauté, une Église de fraternité perdue dans les montagnes. Une Église de gens pauvres. Haïti, c'est au début des années 80. C'est un pays extrêmement pauvre. Un pays où tout est dur. Pays de dictature, mais un pays où je découvre la foi. Je découvre la foi, oui.
Et de vivre ça au début, vraiment, de votre vie religieuse, c'était fondateur pour vous?
Ah, ça a été pour moi fondateur à beaucoup de titres. Fondateur d'abord parce que ça a été la première expérience de communauté avec une petite communauté, mais de communauté avec des frères que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont appris ce que ça voulait dire que d'être frère comme ça en mission, entre guillemets. Je ne connaissais pas la pauvreté. J'avais lu des tas de choses, mais je ne savais pas ce que c'était que de vivre dans ces conditions. Pas du tout. J'étais croyant, mais je pense à une de mes amies qui est morte. Malheureusement, son mari s'appelle l'ami. Et elle s'appelait Jésus-Humaine. Et un jour, elle a eu une petite fille. Et alors, je lui demandais, et alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? Et elle me dit, elle s'appelle Jésus est là. Cette foi immédiate, cette foi familière, cette foi complètement apprivoisée, ou plutôt qui a complètement apprivoisé une vie humaine, c'est magnifique. C'est magnifique.
Ça vous a évangélisé?
Ah oui, c'est... Tout d'un coup, j'avais le sentiment de découvrir la vérité de cette parole qui m'avait tant marqué pendant le noviciat, où on passe beaucoup de temps à lire la Bible, à l'écouter, à essayer de la comprendre. La vérité de cette parole passait par la vie concrète des gens. C'est une expérience, ouais, fondatrice pour moi, fondatrice. Et puis de découvrir que ces croyants éprouvaient le besoin, mais un besoin qui leur était comme essentiel, de partager la foi en vivant ensemble, parce qu'ils étaient croyants, et de tenir, là encore, de tenir dans la situation dans laquelle ils étaient, de tenir avec cette conviction que le plus ultime de leur humanité, on pouvait faire toute violence qu'on voulait, ce plus ultime de leur humanité, on ne pouvait pas y toucher. Un jour, dans une de ces montagnes, de ces petites montagnes, de ces petites collines, un jeune avait dit ça. Vous savez, les jeunes, ils discutaient beaucoup du dictateur, des tontons macoutes, des milices, etc. Et un jeune disait, mais bon, en fait, on peut tuer tout le monde, on peut tuer tout ce qu'on veut, mais on peut pas tuer la résurrection. Et il vivait de cela. Et du coup, ça posait cette communauté humaine et croyante comme un lieu de résistance de l'humanité. L'humanité, on ne peut pas y toucher. On peut tenter de le faire. On peut tenter de la vilir, on peut tenter de la nier, on peut tenter même d'y être indifférent, mais on ne peut pas la détruire. Thank you.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
Bruno Cadoret, vous confiez dans votre livre qu'il vous a fallu apprendre l'obéissance.
Oui.
Vous pensiez repartir comme médecin dans des lieux fracassés du monde, et puis finalement, vous êtes envoyé à Lille, au couvent des Dominicains, pour entamer un doctorat de théologie, enseigner l'éthique à la faculté de médecine. Obéir, pour vous, ce mot, il rebutait le jeune Dominicain que vous étiez ?
Vous savez, quand on entre dans les vies religieuses, on a besoin, je pense, on a besoin d'idéaux. Alors dans l'ordre, on fait un seul vœu, on fait vœu d'obéissance au maître de l'ordre. Voilà, d'obéissance au sens où c'est un vœu d'obéissance apostolique. On fait vœu d'entrer dans ce mouvement de l'évangélisation.
C'est un mouvement.
Ah, pour moi, c'est cet ordre-là. On entre dans le mouvement de l'évangélisation. Le mouvement de l'évangélisation, c'est le mouvement des disciples qui, les uns ont été appelés par Jésus, les autres sont venus par amitié, les autres sont venus par curiosité, les autres sont venus parce qu'ils avaient été guéris par Jésus, puis ils sont restés. Et tout ce petit monde marche avec Jésus de village en village pour annoncer que le royaume de Dieu est proche, est en train de venir, est tout proche, s'approche. Bien, c'est un mouvement. Et l'obéissance, le vœu d'obéissance, est un vœu d'obéissance apostolique, en ce sens que il consiste à dire au maître de l'ordre et à ceux qui le représentent, eh bien, ce que tu me demanderas de faire, je le reçois comme pouvant m'ordonner à ce mouvement.
Et donc, je suis normalement dans une docilité.
Voilà, et donc, j'essaie de faire cela. Alors, après coup, vous découvrez que, vu sous cet angle-là, c'est magnifique, c'est très enthousiasmant, et vous dites, je le referai 100 fois pour une. Maintenant, concrètement, moi, je préfère, en tout cas par honnêteté, dire que l'obéissance n'est pas facile. Cette obéissance-là, dans son idéal, est facile, mais quand elle vient contredire quelque chose que vous auriez le souhait de faire, que vous aviez pensé faire, que vous aimeriez faire, que vous pensez être plus capable de faire...
C'est crucifiant.
Tout d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait, ce supérieur ? Pourquoi ? Il comprend rien, et il me prend à l'envers, enfin, bien. Aujourd'hui, je dirais, tous ces moments où l'obéissance est concret, c'est quelque chose de concret, tous ces moments qui m'ont été difficiles, m'ont appris, je crois, que l'enjeu de l'obéissance, c'est de confier à quelqu'un d'autre que moi ma vocation.
Ça, c'est un sacré chemin pour arriver. C'est au bout de quelques années, je suppose, parce que...
Ah ben oui, moi, maintenant, je suis à la dernière partie de ma vie. Mais peu importe. C'est, au fond, l'obéissance, c'est ça. C'est confier à ses frères d'être gardien de sa vocation.
Et alors, c'est les frères ou un supérieur qui peuvent le mieux, peut-être, vous dire, au fond, quel est le chemin à suivre, puisque vous parliez de mouvement, et qu'on n'est pas forcément soi-même bon juge.
On n'est pas forcément le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, quand on décide de faire des choses, et on le fait tous, hein, et je l'ai fait, et je le ferai encore, et franchement, on est beaucoup moins libre. On est beaucoup moins libre parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Alors quand même, j'ai dit qu'il fallait que je fasse ça. Je vais le faire. Il faut que ça marche. Lorsque un supérieur ou le discernement d'une communauté vous dit, bon, voilà, ce qu'on pense, c'est que là où tu en es, au moment où nous en sommes avec toi, ben, on te demande de faire ça. Bien. Vous me demandez quelque chose qui m'est pénible, a priori. Je suis pas sûr que je sois capable de le faire. Vous le dites. Dans cette espèce de confiance mutuelle, allons-y. Je compte sur vous pour garder ma vocation, pour me la révéler, pour me faire m'y ajuster. Et c'est ce qui se passe.
Oui, mais il faut faire alors totalement confiance au supérieur, à ses frères de communauté, quand la décision est décidée collégialement.
Ben oui, puisque c'est ça la vie dans laquelle on s'est engagé. Alors, Vous le faites. Vous le faites quelquefois avec des pieds de plomb, vous le faites quelquefois en râlant.
Vous avez râlé,
oui,
hein, Bruno Cadoret.
J'ai râlé beaucoup.
Parce qu'on vous a changé de place.
Beaucoup, parce que... Enfin, franchement, pendant des années, moi, je voulais repartir en Haïti. Alors aujourd'hui, ça peut paraître complètement romantique ou même un peu infantile de vouloir repartir dans des lieux où on a été tellement heureux. Mais c'était ça que je voulais. Et j'avais le sentiment que c'était dans ce type de contexte que j'avais découvert tellement de choses de l'Évangile que je serais le plus à même d'y être fidèle et de donner mon écho. Bien, c'est pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, j'avais pensé que je quitterais la médecine quand je suis entré dans l'ordre. Je suis retourné comme prof dans une fac de médecine. C'est des années magnifiques que j'ai vécues là.
Oui, vous avez travaillé dans le domaine de la bioéthique.
Oui, c'est des années magnifiques. J'ai connu des amitiés magnifiques. J'ai appris à chercher avec des amis. J'ai appris à enseigner. J'ai adoré ça.
Donc ça vous a été redonné.
Je l'aurais pas choisi. Ou si je l'avais choisi, je l'aurais choisi comme une carrière. Puis je n'aurais peut-être pas réussi. Donc au fond, oui, l'ordre vous conduit sur votre propre chemin.
Bruno Cadoret, je rappelle que vous êtes maître de l'ordre des frères dominicains. Vous êtes supérieur donc de l'ensemble de toute cette famille dominicaine. Qu'est-ce qu'être supérieur pour vous? Comment s'exerce l'autorité en Église? Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui dépasse les frères prêcheurs.
Oui.
Ça veut dire quoi, être supérieur, avoir autorité?
Alors pour ce qui est de l'ordre, le supérieur... J'espère que je suis, par exemple, est lui-même soumis à une autorité. C'est-à-dire qu'il est élu par un chapitre. Il y a un chapitre tous les 3 ans de représentants de l'ensemble de l'ordre dans le monde. Et ce chapitre dit un certain nombre d'orientations, de directions dans lesquelles, aujourd'hui, tel que nous sommes capables de le voir, la tâche de la prédication, la tâche de l'évangélisation devrait se dérouler de telle et telle manière.
Donc vous n'êtes pas tout seul à décider.
Ceci est ce à quoi le maître de l'ordre doit se plier. C'est cela qu'il doit servir. Et donc, le maître de l'ordre a la charge de promouvoir l'unité et de veiller à l'unité entre tous ses frères, comme je le disais tout à l'heure, au nom de ce bien commun qui a été déterminé par tous. Par le chapitre de tous. Tous ne sont pas présents, mais où des représentants de tous sont présents. Et ceci est très important, puisque la réponse à votre question, ce serait de dire, exercer l'autorité dans l'ordre, c'est être celui qui est gardien de l'unité et garant que chacun trouvera sa place et déploiera sa propre vocation dans sa diversité.
C'est ce que vous disiez au début de cet entretien.
Oui. Et que tous se mettront à l'unisson, en harmonie avec les orientations du bien commun, déterminé par tous. Autrement dit, que ces orientations données par un chapitre, général ou provincial, ou capitulaire de communauté, ces orientations sont le tiers extérieur auquel nous allons nous référer ensemble pour savoir comment nous allons avancer ensemble.
Et vous êtes au service de cette unité.
Et c'est cette dynamique-là que le supérieur doit promouvoir et doit garantir.
Dans des contextes très différents, parce que vous racontez dans votre livre les 5 continents, des frères prêcheurs, il y en a partout.
Oui, alors vous êtes dans des cultures différentes et dans des cultures d'ailleurs où la culture de l'autorité est différente. Il y a des cultures, par exemple, où l'ancien a toujours raison. Chez nous, c'est pas comme ça.
C'est le cas en Afrique, par exemple?
C'est le cas en Afrique, c'est le cas au Vietnam. Il y a beaucoup de cultures, au fond, où l'ancien a toujours raison. dans l'ordre, il y a personne qui a raison. Il y a personne qui a raison puisqu'on doit tous se référer ensemble à un même bien commun. Et donc chacun a la voix, chacun a la possibilité de parler, et chacun le doit d'une certaine manière. Non pas pour faire entendre et gagner son propos, mais pour exercer sa capacité à présenter son opinion et à l'argumenter, à la mesure où il acceptera que les autres présentent leur opinion et l'argumentent.
C'est une culture, une manière de faire que vous pouvez proposer à la société, mais aussi à l'Église.
Bien, oui, en la vivant, nous essayons de la proposer. C'est exigeant. Ça ne marche pas toujours, d'ailleurs. Hein. Vous savez, avec le temps, on perd un peu d'idéalisme, ou plutôt on gagne en profondeur d'idéalisme par le réalisme. Il faut être réaliste. Alors, c'est quelquefois difficile, c'est quelquefois raté. Mais ça vaut toujours la peine de penser qu'on sera plus intelligent quand on sera capable de penser ensemble. C'est difficile. Ça ne marche pas toujours, et quelquefois c'est pas efficace. Parce que si on veut rechercher ensemble davantage d'unité, davantage d'unanimité, ça va prendre un temps fou.
Mais vous avez le temps de Dieu.
Ben on a le temps de Dieu, et puis il y a probablement peu de choses qui sont vraiment très urgentes. Il y a une chose qui est toujours très urgente, c'est que personne ne soit oublié. C'est que personne ne compte pour rien. Ça c'est la seule urgence au fond. Que personne ne compte pour rien. Et que personne ne croit qu'il compte pour rien. Ça, c'est urgent. Alors si, à un moment donné, vous vous trouvez devant cela, il faut trouver comment agir au plus vite. Maintenant, si c'est pour savoir est-ce qu'il faut aller plutôt ici ou plutôt là, faut-il y aller immédiatement aujourd'hui ou prendre le temps de savoir si on ira plus unanime demain? Il vaut mieux y aller plus unanime demain. Même si ceux qui pensent qu'il faut y aller aujourd'hui ont raison.
Ça leur apprendra la patience.
Mais il vaut mieux recueillir dans le temps la plus large conviction commune possible, de sorte que la communion l'emporte. C'est l'enjeu du gouvernement dans l'ordre, que la communion l'emporte.
Bruno Cadoret, j'aimerais évoquer avec vous la prédication, parce que vous êtes frère prêcheur et vous dites plusieurs fois dans le livre qui paraît aux éditions du Cerf que c'est votre vocation première. Qu'est-ce que vous diriez? Ça veut dire quoi aujourd'hui, au XXIe siècle, prêcher l'Évangile?
Ça veut dire proposer la parole de Dieu comme un lieu où on peut être chez soi.
C'est-à-dire?
Avec d'autres. Mais une parole où quelqu'un s'adresse à nous, qui est Dieu. Il s'adresse à vous aussi, même si je suis pas sûr de tout à fait bien comprendre comment ça se fait qu'il nous parle à tous les deux. Et pourtant, en faisant cela, il nous révèle, à vous comme à moi, que nous avons au fond de nous une capacité fondamentale, essentielle de notre humanité, c'est que nous sommes capables d'être frères, d'être en communion.
C'est ce que vous appelez rentrer en amitié avec les frères et avec Dieu.
Et avec les gens. Ici, quand vous dites avec les frères, c'est avec les frères. Avec l'humanité. C'est entrer en communion d'amitié. Et entrer en communion d'amitié au nom de celui qui, pour dire son nom, dit qu'il nous appelle ses amis. C'est découvrir que si Dieu, en Jésus, se fait tellement capable de l'homme, capable d'être l'ami de l'homme, c'est pour révéler que l'homme a au fond de lui la capacité d'être lui aussi ami de l'homme et ami de Dieu. C'est sa capacité foncière, fondamentale.
Mais comment arriver à le révéler à chacun sur cette terre? Par quels moyens, vous, dominicain?
Dans les limites des rencontres dont vous êtes capable. Dans les limites des rencontres dont vous êtes capable. Certains d'entre nous et certains des membres de l'Église ont beaucoup de capacités, d'autres en auront moins. Peu importe. Peu importe. La capacité que nous avons, que chacun de nous a, qu'il la déploie.
Que ce soit une petite ou une grande capacité.
Peu importe, c'est la même chose. Que ça transfigurera le monde, j'en suis sûr. Et c'est comme la vague, vous savez, il suffit d'une goutte pour que la vague retombe sur la berge. Elle monte, et puis à un moment donné, on ne sait pas tellement bien quelle est la goutte qui fait renverser la vague. Mais à un moment donné, il y en a une qui passe de l'autre côté et la vague s'aplatit. Voilà, peu importe.
C'est l'effet aussi du battement du papillon, dont on dit qu'il peut changer la face du monde.
Oui, peu importe. Alors, il y a quand même une condition, c'est que pour rencontrer l'autre, ben, il faut se sortir de chez soi. Benoît XVI disait ça, le pape émérite Benoît XVI disait « La spiritualité de l'évangélisation, c'est l'expropriation de soi-même, se sortir de chez soi. »
Mais ça, dire ça à nos contemporains qui aiment justement leur chez eux, en tout cas en Occident, c'est vrai qu'il y a une culture, on voit bien sur le plan social, l'espace privé est privilégié, on est chez soi, entre soi.
Oui, alors... C'est vrai, vous avez raison, et c'est difficile à dire, mais le successeur de Benoît XVI, le pape François, dit la même chose. C'est quelque chose qui est banal. Ils le disent parce que Jésus le disait. Jésus disait, ah oui, vous voudriez que je reste, mais non, j'ai encore beaucoup d'autres villages à aller visiter. Et venez avec moi.
Donc, c'est en marche.
Donc, il faut se sortir de ces zones d'établissement. Cela dit, je pense que ça fait beaucoup de bien dans la vie, d'accepter que on ne vit pas dans ou comme ça ou comme ça. Oui, chacun de nous a besoin aussi de se sentir chez lui. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a frappé le plus en entrant dans l'ordre, c'est qu'à un moment donné, je me suis senti chez moi. Et chacun de nous a besoin de se sentir chez lui. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça que nous sommes. Et le fait de se sentir bien chez soi et d'avoir besoin d'avoir des amis de proximité, d'avoir des gens qui, avec lesquels on se reconnaît plus immédiatement, ne nous empêche pas de nous exproprier. Peut-être même au contraire. Peut-être même avons-nous besoin d'être vraiment bien attachés quelque part pour pouvoir nous détacher ailleurs. Nous n'avons pas à choisir. La seule chose qui est importante, c'est de choisir d'accepter d'être dérangé.
Bruno Cadoré, justement, vous parliez de dérangement. Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation en Europe? Nous voyons arriver des personnes qui ont fui pour raisons économiques ou politiques leur pays, ces migrants qui viennent, et dont certains ne veulent absolument pas ici, en Europe.
Oui.
Comment vous l'entendez, ce mouvement-là?
Mais d'abord, je dirais, quel honneur! Des gens qui, quand vous voyez la vie d'une partie de ces gens, leur souffrance, le mépris dans lequel ils sont jetés, dans lequel ils sont en déréliction, l'absence de toute sécurité, ces gens avec cette histoire de souffrance, de mépris, de dérespect, ces gens viennent en Europe en disant « Nous vous faisons confiance ». Pour sortir de là. Quel honneur! Quel honneur! Alors, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a peur de l'étranger, parce qu'on a peur d'être dérangé. De toute façon, on a peur d'être dérangé. Mais ce qui devrait dominer, c'est déjà que les Européens, l'Europe est reconnue comme un lieu où on pourra trouver consolation, sécurité. Respect.
Mais alors certains disent, il faut dans leur pays que le respect, la sécurité, l'assurance alimentaire grandisse et que ça n'est pas forcément en les accueillant qu'on résout le problème.
Alors, ça, c'est la première étape. J'entends bien que on dit ça. Et c'est important qu'on soit aussi capable de dire, en toute hypothèse, on ne peut probablement pas accueillir bien, durablement et fidèlement, sans limite. Mais l'étape qui suit, c'est de dire, oui, mais ça se passe quand même chez eux. Le problème, c'est que ce qui se passe chez eux ne vient pas seulement de chez eux et ne vient même probablement pas d'abord de chez eux.
Ça, c'est le...
Alors, il faut commencer à penser.
C'est vous qui voyagez, qui en avez eu la...
C'est-à-dire que...
La vision en...
Quand on déforeste un pays, ce ne sont pas les habitants de ce pays qui le déforestent. Et ça n'est pas dans ce pays qu'on envoie les produits de la déforestation. Alors, il faut entrer en politique. Parce qu'il ne faut pas seulement s'adresser à ceux qui migrent, et il ne faut pas seulement s'adresser au gouvernement de ceux qui migrent. Il faut s'adresser aussi à ceux qui font des affaires avec ces gouvernements. Il faut donc s'adresser à ceux que nous connaissons. Lorsque, si nous avons encore un peu de temps, lorsque les frères prêcheurs sont partis avec les conquérants de l'autre côté de l'Atlantique et qu'ils ont découvert l'île d'Hispaniola, qui est par parenthèse, dont une partie est Haïti, ils étaient avec leurs compatriotes européens. Et ils les accompagnaient, c'était normal.
Les religieux faisaient partie
accompagnaient,
du voyage.
Ils accompagnaient. Bien. Ils étaient avec leurs compatriotes et tout d'un coup, ils voient leurs compatriotes se comporter d'une manière inacceptable avec les populations indiennes. Évidemment, ils sont émus par les populations indiennes et un jour, ils essaieront d'entrer en lien avec ces Indiens et de leur parler de l'Évangile et de leur transmettre l'Évangile. Et ils le feront. Mais en tout premier lieu, les toutes premières prédications sont des prédications qui s'adressent à leurs compatriotes.
Qu'est-ce que tu fais de ton
frère ?
En
leur disant, mais dis donc, est-ce que tu n'es pas un homme comme eux ? Est-ce qu'ils ne sont pas un homme comme toi ? Est-ce qu'on n'est pas tous des hommes tous ensemble ? Et ce que tu fais là, met en danger ton propre salut. Autrement dit, la question aujourd'hui de l'analyse des raisons de ces migrations et donc de tant de souffrances d'hommes, de femmes et d'enfants, de jeunes et d'enfants, l'analyse des raisons est importante pour savoir à qui il faut parler.
Et vous dites justement que l'indifférence croissante devant les injustices vous révolte.
Oui, parce que c'est comme si on disait on ne peut pas se permettre de penser jusqu'au bout ce dont on a quand même vraiment l'intuition.
Oui, à savoir que les grandes puissances font des affaires avec les plus pauvres et qu'elles en héritent.
Et qu'il faut donc redonner la possibilité à ces pays dont tant et tant de gens sont contraints de s'expatrier, il faut redonner la possibilité à ces pays de se gouverner au bénéfice du bien commun des habitants de ces pays. Et ça, j'ai l'impression que c'est possible, à condition qu'on se fasse suffisamment confiance, je veux dire au niveau international, qu'on se fasse suffisamment confiance pour être capable ensemble d'avancer vers un peu plus de vérité quant à ce qu'est le droit de chacun d'être humain et le droit de chaque peuple d'être un peuple.
Vous dites, Bodo Kadoré, qu'une des priorités, c'est la formation des consciences. C'est éduquer à ce qui se passe réellement dans notre monde. Au fond, c'est à nous réveiller les plus jeunes, mais aussi réveiller les anciens.
Avant même d'être la formation, c'est la confiance en la capacité de chacun de mettre des mots sur ce qu'il se passe. Il faut vraiment accorder notre confiance et notre crédit à la capacité des humains de penser quel est le monde qu'ils souhaitent.
Mais une fois qu'on a mis des mots sur ce qui se passe, quand vous avez des hommes politiques comme ce qui se passe en Turquie, aux États-Unis, en Chine. Vous vous dites, mais oui, mais à quoi bon? Qu'est-ce que je peux, moi?
Eh bien, trouver de quelle manière, progressivement, inviter, contraindre à ce que les intérêts cachés le soient moins, à ce que les stratégies obscures soient plus transparentes, à ce que finalement chacun découvre le bonheur fondamental de pouvoir être vraiment un humain. Moi, j'ai beaucoup de confiance en cela. Je crois que travailler au niveau des instances internationales, par exemple, c'est pas travailler avec des instances, c'est travailler avec des gens.
Des visages, alors.
Des visages, des gens. Et des gens qui savent qu'il y a plus de, joie à être humain que à se cacher à soi-même l'émotion que ça fait de voir que d'autres humains sont maltraités.
Donc ça signifie écouter l'envers du monde, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est écouter avec Dieu ce qu'on ne voit pas forcément, qui est là, qui est caché?
Oui.
Et pour le réparer, cet envers?
Et c'est pour réparer le monde. Parce que pour réparer un vêtement, quand il est vraiment abîmé, il faut que vous alliez à l'envers pour reprendre les fils. Et c'est bien pour l'ensemble du monde, c'est pour l'endroit du vêtement. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne refilez pas l'envers, vous ne pouvez pas réparer le vêtement.
Et comment les chrétiens spécifiquement peuvent prendre part à cet exercice de couture?
Avec la confiance chevillée au cœur qu'ils ont pour meilleur ami celui qui a pu regarder en face le mal que l'homme quelquefois est capable de faire à l'homme sans avoir peur et en dépassant cette épreuve-là. Avec cette confiance qu'ils ont avec eux, cet ami de la kénose, cet ami de l'abaissement, qui sait que dans cet abaissement, il ne perd rien de lui, mais il donne tout.
Et c'est parce qu'il a été jusque-là que nous pouvons lui faire confiance.
Oui, c'est parce qu'il a été jusque-là que nous savons que la vie qu'il nous donne est de cette teneur-là, à cette force-là, cette force de la renaissance à partir de l'envers, cette force de la résurrection à partir de l'envers.
Le mot compassion est aussi très important dans votre livre. Pâtir avec, au fond, le Christ, vous venez de le dire, a vécu cela.
Le Christ a vécu cela, il a voulu le vivre, et du coup, il nous a enseigné une réalité de notre chair humaine, au sens de notre réalité humaine. Il nous a enseigné que cette réalité humaine était la médiation par laquelle nous pouvons souffrir le monde. Faire que le destin du monde et le destin dans ce monde de tous ceux qui sont soumis à trop de souffrances, que ce destin est le nôtre.
Mais souffrir le monde sans tomber dans le gouffre de la désespérance, c'est tout l'enjeu et c'est une crête, c'est une ligne de crête.
C'est une crête, et puis quelquefois on tombe, on désespère, on doute, on a peur, on ne sait plus, on est maladroit pour le dire. Mais il y a quelqu'un avec nous et c'est lui qui nous y conduit, c'est lui qui nous y tient, c'est lui qui nous y tient parce qu'il se tient là. Alors c'est pour ça que je disais, il est le seul qui a pu regarder en face. Je ne suis pas capable, moi, de regarder en face l'absurde du mal. Lui le peut, sans s'y perdre. Nous, les humains, ça n'est pas sûr. Mais lui le peut, sans s'y perdre.
Et nous pouvons nous appuyer là-dessus.
Nous pouvons nous appuyer sur lui. Lui qui, quand il passe devant ce champ où il y a de l'ivraie et du bon grain, quand le maître passe et que les amis du maître lui disent « Mais est-ce que tu veux qu'on aille enlever l'ivraie ?» Il répond « Non, laissez, je le ferai moi-même. Parce que si vous vous y mettez, c'est pas sûr que vous saurez faire. Mais vous pouvez être sûr que je le ferai. Donc l'ivraie ne va pas l'emporter. »
On va finir avec cette parole d'espérance. Merci à vous, frère Bruno Cadoret. Je rappelle le titre du livre qui paraît au cerf, Avec lui, écouter l'envers du monde. Un grand merci à Pierre Samanos à la technique.